Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Alors, on est toujours dans cette deuxième saison du podcast, d'ailleurs on est en train de vous préparer la troisième. Et on parle aujourd'hui du quotidien d'agents un petit peu particuliers dans ce ministère, ceux qui nous protègent à la fois sur les routes et ceux qui travaillent sur la prévention et la sécurité routière. C'est un domaine important, c'est une des grandes causes nationales de faire réduire le nombre de personnes décédées sur les routes, le nombre de blessés aussi, le nombre de victimes. Alors par le passé, on a réussi, on a eu des beaux succès, on a réussi à descendre sous la barre des 3000 personnes décédées chaque année. Mais depuis quelque temps, je ne sais pas s'il y a un peu de relâchement, si on peut le dire comme ça, mais les chiffres montrent Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon statistiquement, mais c'est surtout pas bon dans la réalité. Je pense qu'on a tous autour de nous des proches, des amis, de la famille qui ont pu subir ou occasionner un accident de la route. Alors il ne faut pas se relâcher et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec deux spécialistes. Lionel, qui est capitaine de gendarmerie, et Aurélie, tu es coordinatrice sécurité routière dans les Yvelines. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Je crois que tu es juriste de formation. Comment on en vient à travailler sur la sécurité routière?
J'ai débuté ma carrière, en effet, comme juriste dans le privé. Puis ensuite, j'ai intégré la fonction publique en tant qu'inspectrice du permis de conduire, donc en 2007.
Inspectrice, c'est toi qui faisais passer donc le permis à tous les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs?
Exactement. Voilà, je réalisais les examens au permis de conduire, voiture et moto.
Ils étaient bons alors?
Pas tout le temps.
Quoi le taux de réussite? Il y a un taux d'ailleurs ou c'est vraiment au cas par cas?
La moyenne, on est autour de 50% à peu près, alors selon les départements et les années, mais en premier passage à l'examen.
Est-ce qu'il y en a qui le passent 4, 5, 6?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Il y en a qui sont en échec et puis après c'est le cercle vicieux aussi de l'échec. Donc voilà, le rôle de l'inspecteur, c'est aussi de les mettre à l'aise dans le véhicule pour leur donner le maximum de chances de réussir à l'examen du permis de conduire et puis surtout faire des conducteurs justement responsables et voilà, sur la route.
Alors ça, c'était après des études de droit, c'était le premier engagement en matière de sécurité routière?
Tout à fait, ouais, en 2007. Et puis ensuite, j'ai souhaité un peu évoluer. J'ai passé donc le concours de délégué au permis de conduire à la sécurité routière en 2014, où j'ai exercé ce poste en Eure-et-Loir pendant 6 ans.
Alors, c'est un concours catégorie A, comme on dit dans la fonction publique, donc de cadre?
Oui, tout à fait. Voilà, c'est un concours. C'était pour moi la suite logique un peu de mon parcours. Donc là, j'encadrais l'activité des inspecteurs du permis de conduire. Je mettais en œuvre les réformes liées au permis de conduire aussi. Puis voilà, j'accompagnais les professionnels de manière générale de la route dans les différentes évolutions, dans la programmation des examens.
Alors, les professionnels de la route, c'est les auto-écoles?
Là, je pense essentiellement tout à fait aux auto-écoles, qui ont connu quand même beaucoup de changements ces dernières années en matière de permis de conduire. Donc, on était là aussi pour les accompagner. Et puis, bien sûr, accompagner de manière générale les usagers, les candidats au permis de conduire, qui parfois ont des difficultés pour s'inscrire au permis ou obtenir leurs résultats post-permis.
Et aujourd'hui, dans les Yvelines, donc?
Voilà, alors j'ai occupé un autre poste entre les deux. Voilà, j'ai pas mal bougé. J'ai été à la délégation à la sécurité routière pendant 2 ans et demi, à la sous-direction éducation routière permis de conduire. Donc toujours dans ce domaine, où là j'étais plutôt sur un poste RH avec le pilotage de la formation des inspecteurs et des délégués au permis de conduire. Et puis voilà, en effet, depuis janvier 2023, je suis à la DDT, Direction départementale des territoires des Yvelines.
C'est un vrai engagement. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette thématique? Qu'est-ce qui te passionne? Parce qu'il en faut de la passion pour enchaîner comme ça les différents angles de vue finalement sur le métier.
On voit les résultats très vite de notre engagement finalement. En matière de permis de conduire, sécurité routière, on ne le voit pas de manière directe parce qu'évaluer la politique publique en matière de sécurité routière, c'est compliqué. Mais néanmoins, voilà, on sait pourquoi on se lève le matin, pourquoi on travaille. Et ça concerne aussi, comme vous l'avez dit en introduction, tous les usagers. Toute personne sait de quoi on parle. Ça concerne tout le monde.
Tous les jours, tu te dis que quelque part, tu sauves des vies par ton métier?
Alors, je ne dirais pas ça. Ce serait en toute sincérité. Par contre, oui, je participe en effet à une dynamique qui va dans ce sens, tout à fait.
Alors, à côté de toi, il y a Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour Camille.
Alors, en tenue, hein, c'est impressionnant, en tenue de motard, on t'a vu arriver casque sous le bras. Tu es capitaine, commandant de l'escadron départemental sécurité routière du groupement de gendarmerie des Yvelines, donc vous travaillez ensemble, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Toi, tu es donc gendarme de formation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à en venir à la sécurité routière aussi?
Alors moi, ça fait 33 ans que je sers au sein de la gendarmerie nationale, dont 20 dédiés à la lutte contre l'insécurité routière.
Ah ouais, quand même.
J'ai découvert la gendarmerie grâce au service national. Et oui, je suis d'une époque où on
je
faisait...
n'ai pas dit tournage, effectivement, mais le service national existait encore.
Voilà, où on faisait le service national. Donc c'est vraiment une découverte totalement par hasard. Et ça a été la révélation, finalement, le service aux autres. Et j'ai passé le concours, j'ai fait une école de sous-officier à Châtellerault, donc en 89. À l'issue, j'ai été muté en escadron de gendarmerie mobile. Et oui, j'étais en maintien de l'ordre
c'est
de défense.
C'est le maintien de l'ordre,
hein, tout
ça.
À fait. J'ai officié pendant une dizaine d'années sur Satory, Versailles-Satory. Donc déjà, je connaissais un petit peu les Yvelines. Voilà.
Et la circulation de la région parisienne.
Voilà. Après, j'ai été muté en Haute-Savoie, plus exactement dans le Pays de Gex, en brigade territoriale. Donc juste à côté de Genève, et c'est là que j'ai passé les tests pour aller au CNFSR, au Centre National de Formation à la Sécurité Routière de Fontainebleau. Donc 3 mois de formation, moto, matin, midi et soir, oui, une belle posologie. Et donc à l'issue, donc, j'ai été muté, mon premier poste de motocycliste a été sur l'autoroute A40, donc à côté de Danmas, en Haute-Savoie. Après, à l'issue, je suis parti en Normandie, à côté de Bernay,
donc toujours motocycliste,
toujours en unité autoroutière, donc principalement en autoroute. Après quelques années passées donc à côté de Bernay sur la 28, j'ai été muté à la brigade motorisée des Andelys, donc département de l'Eure, qui jouxte d'ailleurs les Yvelines. J'ai passé le concours officier en 2014 et j'ai pris mon premier poste de lieutenant à Pont-l'Évêque, aux portes de Deauville.
Donc, voilà, donc là, vous avez dû quitter les motos.
Alors
comme officier.
Toujours. Voilà. Non, je garde toujours la spécificité moto. Malheureusement, j'en fais beaucoup moins que mes camarades sous-officiers. Et donc, ça a été mon premier mandat de 4 ans à Pont-l'Évêque. Et à l'issue, je suis arrivé en tant que commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière de la Gironde à Bordeaux.
Là, donc je crois qu'en 5 minutes, vous nous avez fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager, mais c'est à l'image d'une carrière dans la gendarmerie.
Tout à fait. C'est vraiment une institution qui offre cette possibilité de pouvoir voyager. Alors parce que pendant mes 10 années de gendarmerie mobile, j'ai fait aussi de l'outre-mer, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Réunion. J'ai fait aussi ce qu'on appelle des OPEX, opérations extérieures, le Kosovo. J'ai fait aussi la protection de l'ambassade de France à Alger aussi. Donc voilà, tout un programme.
Bon, alors aujourd'hui, vous occupez aussi de sécurité routière dans le même département qu'Aurélie. Vous travaillez ensemble. Donc.
Tout à fait, tout à fait.
Vous pouvez nous décrire un petit peu ton travail au quotidien?
Mon travail au quotidien, donc, c'est coordonner les unités de sécurité routière des Yvelines, donc, qui sont au nombre de 4 unités, une brigade motorisée à Rambouillet, une brigade motorisée à Bennes, un peloton d'autoroute à Saint-Arnoult en Yvelines, qui, je le rappelle, est la plus grosse barrière de péage d'Europe. Avec plus de 40 voies, donc c'est vraiment énorme.
40 voies.
40 voies de péage, c'est assez énorme. Et le peloton motorisé de Mantes-la-Jolie, au nord-ouest du département.
Et concrètement?
Donc concrètement, c'est analyser l'accidentalité, les principales causes et les facteurs d'accident, et donner des directives aux unités pour qu'ils puissent orienter les services afin de lutter et de mettre en place des services de lutte contre l'insécurité routière.
Donc c'est principalement de la répression?
Principalement.
Du contrôle?
On a beaucoup de contrôle. On a, nous, un schéma qui est basé sur de la prévention, répression, principalement. Donc, prévention, on a un volet préventif assez important qu'on développe. D'ailleurs, avec Aurélie, on va commencer à mettre ça en œuvre, parce que moi, je ne suis arrivé que le 1er août, donc c'est assez récent. Donc là, on va mettre en place des grosses actions de prévention à l'attention des scolaires, des entreprises, des seniors, pour un peu rappeler les règles de conduite, éduquer les conducteurs de demain, les jeunes en milieu scolaire, et donc qui après quelque part peut aussi légitimer notre répression. C'est-à-dire que finalement on a quand même ce volet préventif voilà, pour rappeler les règles sur la route.
Alors Aurélie, comment on s'y prend pour justement planifier avec les différentes forces, hein, la police, la gendarmerie, peut-être d'autres acteurs aussi, une vraie stratégie, une politique publique en la matière? Par quoi on commence?
Alors déjà, on élabore ce qu'on appelle un document général d'orientation. Alors c'est un grand mot, hein, mais là, on vient de le renouveler puisque c'est un document qui est établi pour 5 ans. Donc on vient de le renouveler en 2023. Je venais à peine de prendre mon poste qu'on a dû élaborer ce document. Et donc ça fixe en gros les grandes orientations d'action qu'on souhaite mettre en œuvre sur les 5 années à venir. Et on a retenu 4 enjeux au sein du département, mais en fait c'est les 4 enjeux retenus aussi au niveau national, à savoir donc les 2 roues motorisées, les conduites à risque, les mobilités dites douces, et puis le risque routier professionnel. Donc au niveau du département, on a retenu ces 4 enjeux, avec pour chaque enjeu donc des orientations d'action. Et ce DGO est décliné annuellement via un plan d'action départemental de sécurité routière.
Qui rentre plus dans le concret.
En fait, voilà, concrètement, c'est quelles actions collectivement on veut mettre en place dans le département avec nos différents partenaires, puisque nous, la coordination sécurité routière, c'est nous qui déterminons ces objectifs. Mais maintenant, on a besoin aussi de nos partenaires pour mettre en œuvre concrètement ces actions.
Et pour les déterminer, on part de statistiques, on part de ce que veulent les publics cibles. Comment ça se passe?
Tout à fait. On établit un diagnostic territorial où on en est dans notre accidentologie. Pour répondre au mieux à cette accidentologie, on détermine des actions. L'idée, ce n'est pas de faire des actions pour des actions, mais c'est bien de cibler à la fois nos modalités d'action, mais aussi notre public. Puisqu'on sait que voilà, il y a des publics plus sensibles que d'autres à l'accidentologie. Il y a des heures aussi, mon collègue parlait de contrôle routier, on sait qu'il y a des heures plus propices aussi aux accidents. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre du lien entre différents partenaires, de coordonner l'ensemble des actions pour qu'on soit le plus efficace possible ensemble dans la mise en œuvre de ces actions.
Donc vous ciblez à la fois des comportements, mais aussi des publics. Vous parliez par exemple du monde professionnel. C'est vrai que quand on est un VRP toujours sur la route, par exemple, on est sûrement plus sujet à soit provoquer, soit subir un accident.
C'est un vrai enjeu, ouais. Le risque routier professionnel, on se rend compte qu'en fait, voilà, il y a une grande partie des accidents, alors je ne voudrais pas dire de bêtises et je ne vais pas sortir de trop de chiffres, mais enfin, en tout cas, se déroule lors des trajets, pardon, domicile-travail. C'est un vrai enjeu, et puis derrière un salarié, on touche une famille finalement. Donc on sait déjà qu'une des priorités 2024 qu'on va donner au sein du département, ce sera le risque routier professionnel. À la fois pour les automobiles, mais aussi pour les motards, puisque surtout en Ile-de-France, de plus en plus de salariés se déplacent aujourd'hui en moto.
Parmi les partenaires avec lesquels vous travaillez, à la fois la préfecture et la gendarmerie, justement, comment on touche ces professionnels-là? C'est leurs syndicats, c'est leurs associations
Alors, nous, coordination, donc on travaille pour le compte du préfet, on travaille donc avec différents partenaires que sont les forces de l'ordre, les associations, les assurances, le SDIS, on travaille avec tous ces différents partenaires. Et ensuite, c'est une sorte de... L'idée, c'est aussi qu'on se fasse connaître auprès des différents... point d'entrée de nos actions. En effet, les associations, les collectivités territoriales, les entreprises, on essaie de se faire connaître pour approcher ces différentes entités et puis proposer notre offre d'action et pour répondre au mieux à leurs problématiques.
Et alors c'est un petit peu justement, je vais rebondir sur les propos d'Aurélie, justement, oui, nous on a créé, enfin j'ai créé là depuis que je suis arrivé, la cellule de prévention routière. Donc l'idée globale c'est d'avoir une douzaine de personnels, gendarmes, qui en plus de leur travail quotidien s'orientent vraiment sur cette prévention et vont avoir quelque part une démarche de commerciaux auprès des entreprises pour aller un petit peu les toucher vraiment de plus près, pour leur expliquer un petit peu ces problématiques. Comme le disait Aurélie, des familles sont touchées, mais les entreprises aussi sont touchées. Puisque quand il y a un accident, il y a le côté, le facteur humain, mais il y a le facteur matériel, il y a les véhicules, les parcs véhicules qui sont assez onéreux. Enfin, ça fait vraiment tout un ensemble. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'aller au devant des entreprises et d'avoir vraiment ce rôle d'être vraiment commercial, quoi. Et puis de leur dire, on est en mesure de pouvoir vous apporter un début de réponse pour pouvoir vous sensibiliser sur ce facteur qui est la prévention routière. parce que pendant de nombreuses années, tout le monde a ça en tête, on a été un peu décrié sur les forces de l'ordre, sur leur action répressive. Ça a été quelque chose quand même qui a été assez marquant. Donc là, aujourd'hui, c'est leur dire, regardez, on fait de la prévention. C'est déjà notre premier guide. La gendarmerie, depuis toutes ces années, est vraiment sur ce portage de prévention et répression. Ça existe depuis vraiment, moi, mes souvenirs, depuis la nuit des temps, avec les pistes de conduite qu'on a dans les écoles, avec les vélos. On a tous un peu ces images d'Épinal en voyant le gendarme et puis avec des enfants à vélo. Donc voilà, vraiment ce qui guide l'action de l'institution gendarmerie, c'est déjà cette prévention. Et après, malheureusement, j'ai presque envie de dire, il faut faire de la répression. Les chiffres d'ailleurs sont là pour le prouver. Depuis les années 90, l'arrivée du permis à points, oui, on a une courbe des accidents qui chute, mais c'est quand même malheureusement grâce à cette répression.
Alors on fait des formations pour les juniors dans les écoles, et pour les adultes aussi, on fait des formations, on distribue des brochures. Comment on arrive à capter le public adulte? C'est peut-être plus compliqué. À l'école, les jeunes, ils n'ont pas le choix.
Il y a plusieurs modalités d'action. Je rebondis sur ce que dit mon collègue. Ce qui est efficace, c'est de diversifier ces actions et ces modalités. On peut être sur de la sensibilisation, sur le contrôle-sanction, bien sûr, sur la communication. En relayant les campagnes nationales organisées par la délégation à la sécurité routière, en relayant en effet les flyers. Alors ça paraît bête, mais non, puisque voilà, c'est une documentation quand même qu'on utilise beaucoup sur le terrain. Et puis en profitant aussi d'événements de la vie de tous les jours, des événements sportifs, des grands événements, pour profiter de ces moments-là pour parler de la sécurité routière. Tout est bon en fait, pour toute occasion est bonne pour évoquer ces différents sujets. L'idée, c'est en effet de se renouveler, de diversifier au maximum nos actions et pas être sur une seule et même modalité, sachant qu'on sait très bien qu'idéalement, quand même, il faut agir le plus tôt possible auprès des jeunes, parce que changer un comportement qui est adopté depuis des années...
Les mauvaises habitudes,
c'est compliqué. On sait très bien que c'est plus compliqué. Donc évidemment, on essaie d'intervenir au maximum auprès des plus jeunes. En tout cas, c'est notre volonté depuis notre arrivée. C'est vraiment de toucher les enfants, parce qu'on sait qu'avant même qu'ils aient le temps d'adopter un mauvais comportement. Mais néanmoins, en effet, il ne faut pas oublier les adultes et les conducteurs aguerris.
Comment tu sais si ça marche que le message passe bien? C'est difficile en fait. On sait ce qu'on dit, on sait comment on forme, mais comment on sait vraiment si ça a marché?
C'est parfois une grande frustration en effet, parce qu'on peut quantifier le nombre de personnes qui va se déplacer sur un stand, le nombre de personnes à qui on va distribuer un flyer. Maintenant, l'évaluation de nos actions en termes de... C'est très compliqué. On va clairement... maintenant, on y croit.
Ça se sent.
Évidemment. On sait que potentiellement sur 10 personnes, on en touche peut-être que 2 ou 3. On n'est pas naïf non plus par rapport à ça. Mais néanmoins, c'est la répétition du message aussi qui fait qu'à un moment donné, ça marche. Je pense notamment à la campagne SAM. Je pense que tout le monde connaît. Elle a très bien fonctionné, cette campagne. À longue de répéter, voilà, celui qui conduit ne boit pas. Je pense que tout le monde l'a en tête. En tout cas, il y a des générations entières de SAM qui l'ont gardé en tête. Donc, je pense que la répétition du message aussi fonctionne. Mais c'est vrai que l'évaluation de cette politique-là est très compliquée.
Alors, on a quelques petits indicateurs, j'ai envie de dire, parce que je sais que pour la majorité de nous, de nos actions prévention routière, on communique énormément sur les réseaux sociaux. Et on peut avoir, des premières indications quant aux commentaires qui sont rédigés.
Donc sous les posts, vous allez voir les commentaires.
Tout à fait, tout à fait. Et on voit quand même que majoritairement, bon, il y a toujours 2-3 petits commentaires, voilà. Mais majoritairement, on a quand même une positivité dans l'action. Alors on le voit, nous, par exemple, pour nos journées de roue, vraiment spécifiques, les journées, ce qu'on appelle les journées moto.
Donc ça, c'est quoi? Dites-nous.
Alors, c'est une journée qui est vraiment axée, donc, de roue, toute cylindrée.
Jeune conducteur,
voilà,
ou pas?
Jeune conducteur, moins jeune, okay. Quadra, quinca, tout le monde. On accepte tout le monde. Et voilà, c'est de rappeler un petit peu certaines règles de base. La moto, sur une moto, on est fragile. Il ne faut pas l'oublier. Une moto, ça accélère fort, ça freine fort, mais il faut quand même garder une certaine lucidité quant au pilotage. Donc on va vraiment rappeler ces règles. On va enseigner, on va surtout donner des indications quant à ce qu'on appelle la trajectoire de sécurité. Donc rouler en sécurité.
C'est les distances?
C'est les distances, c'est la manière de piloter.
Okay.
Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose où voilà, on informe les gens, on n'a pas vocation à former les gens. On n'est pas une moto-école. Donc c'est vraiment une information qu'on porte à l'attention des pilotes de deux roues. Et puis ben, forcément, réaborder tous les sujets, les problématiques liées à la vitesse, la consommation d'alcool, stupéfiants, etc.
Ça peut être une petite piqûre de rappel pour être un peu plus attentif, parce que sinon, des fois, ben, on oublie un petit peu les
complètement.
Les choses de base.
Et comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, on a une augmentation du nombre de deux roues. Parce qu'on a de plus en plus de gens qui s'y mettent. On peut voir également qu'on a de plus en plus de modèles avec ce qu'on appelle les scooters, les MP3, trois roues. On a vraiment de plus en plus de matériel qui arrive sur le marché, de matériel roulant, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ces journées-là sont primordiales pour nous puisqu'elles permettent vraiment de sensibiliser les nouveaux, entre guillemets, motocyclistes.
Est-ce qu'il y a des comportements à risque que vous essayez d'expliquer pour déconstruire finalement l'image qu'on s'en fait et faire en sorte que les gens changent de comportement?
Oui, après il y a des outils, je pense notamment à des outils comme le réactionmètre par exemple. Typiquement, c'est un outil qui permet de se rendre compte un petit peu des distances, enfin du temps de réaction nécessaire pour certaines actions de conduite.
Donc pour freiner.
Freiner tout simplement, mais on peut notamment rajouter des distracteurs. Le temps de réaction qui est augmenté avec l'alcool, stupéfiant. On met l'usager, enfin de la conduite, en situation vraiment pour qu'il se rende compte un petit peu l'effet du facteur de risque sur son temps de réaction. Voilà, pour qu'il comprenne que c'est pas juste théorique. Dans les faits, ça, il y a un vrai impact sur la conduite. On a tout ce qui est lunettes alcool. Je prends cet exemple aussi. On met l'usager, enfin celui qui participe à l'action, avec des lunettes pour qu'il se rende compte un petit peu. Fait marcher, il fait un petit parcours pour qu'il se rende compte un petit peu ce que ça donne l'alcool. Parce que dans la vraie vie, quelqu'un qui boit, c'est progressif, il y a des leurres, le cerveau il s'adapte progressivement. Mais n'empêche que c'est...
Le résultat est là.
Le résultat est là. Voilà, il n'est pas capable de conduire. Voilà, il y a des petites astuces comme ça pour permettre...
D'embarquer finalement la personne et qu'elle se rende compte.
Tout à fait, voilà. Ce sont des exemples, mais c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un message percutant sur ces différents sujets. Il faut toujours se remettre en question.
Voilà. Alors, on a aussi, dans les actions de prévention, on a du matériel comme les simulateurs de roues. On a aussi des matériels qui sont assez intéressants, ce qu'on appelle la voiture tonneau ou la voiture test au choc, où là, finalement, on rentre vraiment dans ce scénario de l'accident.
Donc, on se fait peur.
Hein, on se fait peur. Donc, voilà. Donc, l'idée, vraiment, c'est aussi de marquer les gens en disant que là, il y a peut-être un petit côté quand même un petit peu fête foraine, entre guillemets. Mais dans la réalité, c'est tout autre.
L'alcool, la prise de stupéfiants, la vitesse, ça reste les trois points noirs dans la conduite, qu'on soit à deux roues ou qu'on soit en voiture.
Complètement.
Oui, tout à fait, y compris dans les Yvelines.
C'est les trois combats.
Après, c'est l'ordre qui peut éventuellement changer sur un département à un autre au niveau du classement des facteurs de risque. Mais on est vraiment sur ce trio de tête, contrairement à ce que les gens pensent. Voilà, le facteur humain est présent dans la majorité des accidents mortels. L'infrastructure, oui, il y a des cas peut être un facteur aggravant, mais néanmoins, le facteur humain, enfin, faut le redire, reste le facteur, le premier facteur.
Ce sont des facteurs alcool, stupéfiant, vitesse, ce sont des facteurs nationaux. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, j'ai parcouru tout l'Hexagone et j'avoue que j'ai toujours retrouvé ces mêmes causes accidentogènes, l'alcool. Alors, le stupéfiant est arrivé quand même un petit peu plus récemment sur l'échelle, de la route. Mais alcool, stupéfiant, vitesse, les règles de priorité. Alors ça, tout le monde peut le voir très régulièrement.
Priorité
malheureusement,
à droite.
Voilà. Alors, faut savoir que la France est le pays où on trouve le plus grand nombre de ronds-points. Quand même en Europe, c'est assez énorme. On se rend compte qu'il y a vraiment très peu de gens qui savent.
Les clignotants
utiliser.
Aussi.
Clignotants, ouais.
Et partie. Tous les facteurs d'inattention, ouais. Téléphone, faut pas l'oublier. Voilà. Ça ressort beaucoup, tout ce qu'on dit, les facteurs d'inattention au sens large, mais le téléphone, bien sûr, en fait partie, les distracteurs.
J'ai lu que l'usage du téléphone portable entraînait une multiplication par 27 du risque d'accident.
Complètement.
C'est énorme.
Ça, complètement.
Exactement, tout à fait. Chez les jeunes, notamment, accro un peu au téléphone.
Le téléphone est devenu aujourd'hui, n'a plus le nom de téléphone, mais d'assistant personnel. On trouve énormément d'applications d'aide à la conduite. Forcément, les gens qui utilisent par exemple une application d'aide à la conduite, qui voient en même temps qu'il y a un appel, ils sont tentés de décrocher parce que le téléphone est devenu dans la vie du conducteur indispensable. C'est un phénomène que nous on constate puisque moi j'ai déjà été amené, ce qui m'a assez surpris, à arrêter des conducteurs qui étaient au téléphone alors qu'il y avait un passager à côté. Et à la question posée, mais pourquoi c'est pas le passager qui est de la même famille, hein, pourquoi il n'a pas décroché, la réponse a toujours été la même, j'y ai pas pensé. Donc c'est devenu vraiment le téléphone un outil indispensable à tous les conducteurs, mais ils oublient juste une chose, c'est que l'usage du téléphone au volant est interdit.
Il faut apprendre aux jeunes vraiment à anticiper en fait un déplacement. Voilà. S'ils ont un appel à passer, le passer bien avant. S'ils comptent boire, anticiper. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils rentrer comment je vais rentrer si je bois? Voilà, toutes ces questions, il faut apprendre vraiment aux jeunes à anticiper au maximum pour ne pas se retrouver dans un comportement à risque sur la route.
Dans les perturbateurs, on voit aussi notamment des jeunes hein, qui ont des casques audio alors qu'ils sont en trottinette ou à deux roues. Ça, c'est permis ou c'est interdit?
Alors là, c'est interdit, c'est une infraction. C'est quelque chose qui, pareil, est devenu, c'est malheureusement démocratisé, on le voit de plus en plus.
On est dans sa bulle, on ne se rend pas forcément compte de
ce qu'il y a autour. C'est le souci, alors peut-être un petit peu, alors ça c'est une analyse personnelle, aujourd'hui c'est ça, c'est qu'on a des gens qui sont dans des bulles numériques. La voiture maintenant, vous avez certains modèles de voitures qui ont d'ailleurs des magnifiques écrans. Enfin, le numérique habite vraiment l'intérieur d'une voiture aujourd'hui. Donc les gens sont pris dedans, et finalement, même s'ils changent de moyens de transport, trottinette, vous avez des gyropodes, vous avez des choses, mais les gens sont toujours dans cette bulle numérique. Donc c'est vrai que c'est un réel problème. Quand on arrête souvent justement des cyclistes qui ont les casques sur les oreilles, ou d'autres des casques intra-auriculaires, on leur dit, et ils nous regardent vraiment en se disant, mais non, c'est pas nous, on n'est pas concernés, c'est les voitures, mais pas nous.
C'est pour ça que dans nos messages de prévention, il faut insister sur le partage de la route. Voilà, on n'est pas seul, il y a différents types d'usagers, notamment les plus vulnérables. Et voilà, à partir du moment où on prend un véhicule, on n'est pas seul. Et voilà, la notion de partage de la route étant un peu à disparaître, or c'est essentiel finalement.
Quelque part, on est sur une problématique, dès qu'on parle de citoyenneté, on est censé parler de partage de manière absolue et de partage de la route aussi.
Logiquement.
Vous êtes pleinement dans la...
Logiquement.
C'est ça. Derrière les valeurs qu'on prône dans la sécurité routière, en fait, c'est des valeurs... assez universel, hein, le civisme, le partage. On est sur tout à fait des valeurs communes à plein de sujets. Hein.
J'ai en tête une phrase sécurité routière qui disait « Le partage de la route, partageons la route ». Partageons la route, c'est l'action de tout le monde, de chacun. Quoi. Et c'est quelque chose qui malheureusement s'est un peu perdu avec le temps. C'est-à-dire qu'aussi aujourd'hui, on a des voitures qui sont tellement assistées, on leur dit qu'il y a toutes les sécurités possibles et inimaginables, les gens se détachent un peu en disant que de toute façon, c'est la voiture qui va les sécuriser. Mmh. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un conducteur, il y a toujours une action. Comme le disait Aurélie, il y a des actions humaines.
Est-ce que dans votre carrière, dans différents endroits, d'ailleurs pas forcément dans les Yvelines, il y a il y a un fait marquant qui vous a soit choqué, soit fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui marquent finalement une vie professionnelle?
Alors moi, j'en aurais malheureusement énormément.
Je me doute.
Alors si, un petit fait positif.
Allez,
un peu de positif. Quand j'étais en Gironde, ma deuxième année de commandement, il y a le peloton d'autoroute de Mios qui est à l'entrée du bassin d'Arcachon nous appelle un soir en disant voilà, il y a une voiture qui vient de s'arrêter sur le parking. Il y a une maman à bord qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher. Donc là, les gendarmes ont appelé les pompiers, mais bon, il y a un petit temps de déplacement. Mmh. Donc finalement, pendant ce temps-là, les gendarmes se sont un petit peu transformés en assistants accoucheurs. Ça a été c'était un petit garçon qui est venu au monde sur le parking du peloton d'autoroute, du peloton motorisé de Mios. Donc vous voyez, ça a
comme
été
comme quoi les motocyclistes savent tout faire, même accoucher.
Bien sûr. Et quelques temps après, les parents étaient revenus pour faire une photo. On avait eu une photo, ça avait été diffusé dans la presse locale. Donc voilà, pour remercier les gendarmes qui avaient été réactifs. Mais ça a été quelque chose de positivement marquant.
Bien sûr. Et toi Aurélie?
Là je pense à une, pareil j'en aurais plusieurs, mais là récemment on a mené une action fin août dans le cadre de la course Paris-Brest, course cycliste, et l'arrivée, le départ se faisait à Rambouillet. Donc on a profité de l'arrivée à Rambouillet pour mener une petite action sur les mobilités douces. Et parmi les personnes qui sont venues sur nos différents stands, on a eu l'école des loisirs des jeunes, allant de 8-9 ans jusqu'à 13-14 ans. Beaucoup sont venus en vélo, sans casque, sur l'action. Et il se trouve que parmi les stands, il y avait un stand de un petit parcours trottinette, vélo, et pouvait leur être offert un casque, gratuit, financé par une assurance qui était présente. Et voilà, j'ai vu ces jeunes-là, parmi ces jeunes, certains sont repartis tout fiers avec leur casque sur leur vélo. Et voilà, vous parliez tout à l'heure de mesurer l'impact de nos actions. Là, je me suis dit, bah voilà, peut-être au moins pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, quelques mois, ils vont peut-être mettre un casque sur leur tête quand ils vont prendre un vélo, alors qu'ils ne l'avaient absolument pas du tout fait en arrivant. Donc voilà, c'est des petites victoires, mais je pense que voilà, c'est des victoires qui comptent aussi, qui renforcent notre volonté de poursuivre ces actions.
Et c'est du concret, comme tu disais en intro. Là, l'automne arrive, les feuilles mortes, la pluie. Quels sont, vous, pour la fin d'année, les grands temps forts dans votre agenda?
Alors là, les nuits vont se raccourcir. Il y a le changement d'heure aussi fin octobre. Donc là, typiquement, voilà, on va notamment mener des actions pour sensibiliser les usagers vulnérables, hein, essentiellement les cyclistes, à être visibles sur la route. Voilà, on va aller sur des parvis de gare, leur dire, voilà, on vous rappelle que là, la période est d'autant plus compliquée pour vous et plus sensible en termes de sécurité routière. Donc pensez à être visible, bien visible sur la route, visible de tous pour votre sécurité. Voilà, typiquement, là, c'est une action, on parlait d'occasion tout à l'heure, typiquement, les nuits qui se raccourcissent sont une occasion de sensibiliser à ces usagers.
Et le gel, le froid, est-ce qu'il y a une température en dessous duquel faut pas prendre le vélo? Non, ça n'existe pas.
Non, après, c'est du bon sens, c'est vrai. Verglas, si ça glisse, on va déconseiller bien évidemment les cyclistes de venir en vélo. Mais je pense que le risque, il est finalement là où on ne le voit pas bien souvent. La plupart des cyclistes, quand il y a du verglas, ils le voient, le risque. La visibilité, ils n'ont pas forcément conscience que les autres usagers ne les voient pas. Voilà.
Toi, Lionel, en Haute-Savoie, il y avait des gens qui faisaient du vélo par temps de neige.
Oui, mais ils roulaient par tout temps. C'est un petit peu les populations locales, ils sont habitués. Nous, fin d'année, ça va être surtout les fêtes qui sont associées.
Noël, réveillon.
Noël, nouvel an, alors plus la Saint-Sylvestre, parce que là, on a vraiment un côté pleinement festif. Noël, on n'a jamais rencontré vraiment, véritablement de difficultés majeures. C'est
les
beaucoup plus familial,
famille,
voilà, tout à fait. Mais en revanche, les fêtes de fin d'année, là, c'est plus entre amis. Voilà, c'est la consommation malheureusement excessive d'alcool. Comme disait tout à l'heure Aurélie, il n'y a pas trop de projection, donc tout le monde boit. Et puis il y a la question, qui prend le volant? Là, il y a un moment...
Sam.
Sam, mais des fois, non, c'est très très compliqué. Donc là, oui, nous, on va intensifier nos contrôles. On va en amont également diffuser des posts sur les réseaux sociaux pour prévenir un peu les gens. Leur dire, s'il y a un moment, celle ou celui qui prend le volant, il ne boit pas. Ou alors, on reste chez les amis. Alors ça y est, c'est une coutume qui commence un petit peu à rentrer dans les mœurs. On commence vraiment à garder les gens. Si on tient à eux, on les garde. On a d'ailleurs eu quelques spots en la matière, faits par des stars qui parlaient un petit peu là-dessus en disant, quand on aime les gens, on les garde, on les retient, comme on dit.
Et ça sera la conclusion de ce podcast. À la fois, on termine sur un horizon de fête, mais sur un horizon de fête responsable. Quand on tient aux gens, on les garde. Sam, c'est celui qui ne boit pas. En tout cas, vous serez nombreux, les gendarmes, les policiers, sur les routes pour les fêtes de fin d'année. Et j'espère, comme tu le disais Aurélie, que chacun aura bien réfléchi, bien anticipé tous ses déplacements pour que la fête dure jusqu'au bout de la nuit, mais en toute sécurité. En tout cas, Lionel, Aurélie, merci à tous les deux.
Merci.
Je vous souhaite bon retour en toute sécurité dans les Yvelines. Et puis, bravo pour tout ce que vous faites dans ce domaine, c'est important. Et moi, je le dis, même si Aurélie, elle a pas osé le verbaliser ainsi, parce qu'elle est trop modeste, mais vous sauvez vraiment des vies. Donc, merci à vous et à bientôt.